Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus par cette belle matinée ensoleillée un peu fraîche pour suivre la deuxième conférence sur l'histoire d'Israël et ça sera de Josué à David. Merci Mathieu encore pour ta présence, ta disponibilité. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole de façon à ce qu'on puisse profiter au maximum.
Voilà, donc bonjour à tous et tous ceux que je n'ai pas encore vus. On va poursuivre notre parcours. La dernière fois, nous avons parlé des périodes les plus anciennes de l'histoire d'Israël, en commençant par Abraham. Et nous avons donc parlé de la période des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, il y a même Joseph juste après. Puis de la période de l'Exode. Donc vous vous rappelez que la famille d'Abraham s'est agrandie, est devenue un peuple, qui a dû se réfugier en Égypte en raison d'une famine, et qui finit par y rester pendant des siècles. Et par être réduite en esclavage. Nous avons également vu que Dieu, d'après le livre de l'Exode, utilise un homme, Moïse, pour guider son peuple hors d'Égypte. C'est ce qu'on appelle l'Exode, justement. Et nous retrouvons dans le désert avec un peuple qui fait alliance avec Dieu. Ce matin, nous allons continuer cette histoire. Et je vais essayer de vous rappeler les grandes étapes qui suivent pour que vous ayez un petit panorama. Et ensuite, on va revenir sur les deux grandes étapes qui m'intéressent ce matin. Donc, je vous rappelle ces étapes-là. Le peuple est sorti d'Égypte, c'est très bien, mais il se trouve dans le désert, ce qui est quand même un petit peu moyen pour vivre à très long terme, à part si vous êtes des nomades, des bédouins endurcis. Et Dieu, rappelez-vous, a promis à Abraham qu'il lui donnerait, ainsi qu'à sa descendance, un pays, le pays de Canaan, pays où Abraham lui-même a séjourné pendant un temps. Alors il va falloir entrer dans ce pays, d'où l'étape suivante, ce qu'on appelle la conquête de Canaan, qu'on peut situer, et tout le monde ne serait pas d'accord sur la date, bon, moi je prends celle-là, mais ça peut se débattre, voilà, 1250, 1200, on peut discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1209 avant Jésus-Christ, il y a un peuple qui s'appelle Israël qui est sur place. Parce que je vous rappelle que je vous ai montré une stèle égyptienne où on parle d'Israël comme un peuple en Canaan installé. Donc au moins on ne peut pas dire que l'Exode c'est plus tard, si vous voulez, ou la conquête du pays, c'est pas plus tard. Sous la direction donc de Josué, qui sera le nouveau chef du peuple, les Hébreux s'installent dans la terre promise, Canaan, et pour cela ils délogent une partie de ceux qui y habitent, les Cananéens. Ce qui pose des questions, on en reparlera. Une fois installé dans le pays promis, il faut bien y vivre. Et pour vivre dans un pays, vous avez plusieurs régimes possibles aujourd'hui. Ça s'appelle la monarchie, la démocratie, une tyrannie, des démocraties militaires, je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Ce qui est choisi à l'époque, il n'y avait pas de démocratie, ce n'est pas une royauté. C'est ça qui est surprenant. À cette époque-là, le peuple d'Israël va vivre sans roi. En fait, le principe sous-jacent, c'est que Dieu est le roi. Dieu est le roi du peuple. Et le peuple est censé lui être soumis, il lui a donné une loi avec plein de commandements. Alors ce qui va se passer concrètement, c'est que les 12 tribus seront installées dans le pays. Donc, ça sera vraiment, c'est un peu la Bretagne, l'Alsace, la Provence, et des régions avec forte identité. C'est un peu la même chose, en exagérant un tout petit peu. De l'ancien Israël, il y a des tribus qui ont leur identité réparties sur l'ensemble du territoire, sans gouvernement central. C'est quand même très particulier. Donc ça sera un fonctionnement par tribu, avec cependant, quand même un besoin de gestion concrète, et ça sera assuré par des gouverneurs, des chefs, qui vont avoir un rôle local, et c'est ce qu'on appelle les juges. Donc on va y revenir. Vous connaissez par exemple Samson, le fameux Samson. Enfin, vous connaissez peut-être. Et puis, ça dure à peu près 150 ans, on va dire. Après quoi, ce sont les débuts de la royauté. Donc, le peuple finit par se choisir un roi, en disant, on veut faire comme les pays autour de nous, on veut un chef, un leader, qui nous dirige, qui nous protège aussi, en combattant les ennemis qui nous assaillent de part et d'autre, les Philistins, etc. On veut un leader militaire, notamment. Donc il se choisit un roi qui sera Saül. Puis, un certain David, très connu, va unifier l'ensemble des tribus, les 12 tribus, en un seul royaume. Ce qui n'est pas rien en fait. et son fils Salomon va en hériter. Et vous savez, hein, l'horizon, on ne va pas en parler, hein, quelques temps après, on aura une division en deux du pays. On aura le sud, Juda, et le nord, Israël. Alors ce matin, afin de ne pas avoir à aller trop vite, que ce soit pas trop dense ou quoi, j'ai choisi de parler de Josué jusqu'à David, David exclu. C'est-à-dire David, on en parlera une fois prochaine, si vous voulez qu'on refasse des séances. Et je vais me concentrer sur les deux premières étapes, la conquête et la période des juges. Sinon, ça ferait vraiment trop de temps, surtout si je veux laisser un moment pour les questions à la fin. Alors, on va commencer par la conquête, justement. La conquête du pays. Petit rappel, nous avions vu ce trajet qui a été suivi approximativement par les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Donc, vous voyez les flèches bleues qui vous mènent de l'Égypte jusque tout en haut à droite de la flèche, jusque au bord de Canaan. On se trouve en fait à l'est de la mer Morte. Alors, je sais pas si ah oui, super. Voilà. Ici vous avez la mer Morte, alors qui est de plus en plus réduite, hein, donc par satellite de moins en moins impressionnant. La mer Morte qui est ici, et le peuple, après avoir séjourné au désert pendant longtemps, va passer par la droite, par l'est de la mer Morte, pour entrer dans ce pays de Canaan qui a été promis par Dieu. Vous avez un passage fameux dans le livre du Deutéronome, cinquième livre de la Bible, selon lequel Moïse va mourir au bord de la terre promise. Il ne pourra pas y rentrer. Il ne pourra pas y rentrer, notamment parce qu'à un moment donné, il a eu un comportement qui n'a pas vraiment plu à Dieu. Et peut-être qu'aussi symboliquement, il est trop lié à cette génération qui sortit d'Égypte. Là, on trouvera une nouvelle génération qui va rentrer dans cette fameuse terre promise. Mais enfin, Dieu lui montre le pays promis. Il monte sur une montagne, le fameux mont Nebo, il s'appelle comme ça. Et quand vous arrivez sur le mont Nebo, alors là, j'ai pas eu de chance ce jour où j'ai pris la photo, il faisait pas très beau. Vous avez quand même une vue, moi je me rappelle, hein, alors normalement on voit plus que ça, hein, mais par là vous pouvez même voir la mer Morte. Et vous avez une vue panoramique, vous voyez pas tout Canaan, hein, loin de là, mais ça donne une petite idée. Donc Moïse au moins a pu apercevoir le pays dont son peuple allait hériter. J'ai précisé supposé mon Nebo parce qu'en fait on ne sait pas vraiment, hein, c'est comme beaucoup de lieux de l'Antiquité, il y a le mont Nebo officiel, vous pouvez aller faire du tourisme, il y a des églises byzantines avec des mosaïques, des très belles choses à visiter, mais personne ne peut jurer que c'est ça le mont Nebo et que c'est pas un petit peu plus loin. C'est pas grave parce que la vue devait être semblable. Alors je dois préciser que avant même d'entrer dans ce qu'on appelle habituellement la terre promise, donc aujourd'hui ça serait bon alors Israël et puis la Cisjordanie, dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, hein, donc alors rappelez, hein, Cisjordanie c'est par là, Jordanie c'est l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Ben, non seulement la mer Morte, mais encore du Jourdain qui coule ici. Hein, voilà. Ça va jusqu'au lac de Galilée, et puis ça prend sa source un peu plus au nord. Donc ici, vous avez aujourd'hui la Jordanie, un peu plus haut, ça sera la Syrie, là-bas, ça sera le Liban. Ouais. Et cette partie-là va aussi être donnée par Dieu à certaines tribus. Alors, j'ai noté Manassé, Ruben et Gad. Ce sont des tribus parmi les 12 tribus d'Israël. Et ça, c'est déjà du vivant de Moïse qu'on va s'y installer, qu'on va conquérir ce territoire. Alors évidemment, il y a déjà des peuples. Il y a ce qu'on appelle les Moabites, les Amorites, et puis il y a des régions, le Bashan et le Galaad. Ce sont des noms que je mentionne parce que vous les lisez parfois dans si vous avez l'occasion de lire les premiers livres de la Bible, donc surtout le livre des Nombres, le livre de Deutéronome, on parle de ces gens-là un peu mystérieux avec des rois, Og par exemple, drôle de nom, ouais. Et puis ces gens-là sont en fait délogés en partie par les Israélites. Donc il faut toujours se rappeler qu'en Jordanie, il y a des terres qui ont appartenu à des Israélites et qui seront contestées ensuite par les peuples locaux ou qui viendront s'installer. C'est un petit peu, alors je prends toujours l'exemple un peu délicat, hein, tant pis, de l'Alsace-Lorraine, qui se trouvait quand même à la frontière entre l'Allemagne et la France pendant... Enfin, c'est toujours à la frontière, hein, mais maintenant ça appartient à la France, ça n'a pas toujours été le cas. Eh bien, ces territoires-là, en particulier au nord, alors ça c'est très très joli, le Galade, ont été conquis parfois par les Araméens. Aujourd'hui on dirait les Syriens. Ces sortes de zones tampons qui ont changé de main. C'est des zones frontalières. Alors, maintenant il s'agit, si vous voulez, une fois qu'on s'est installé là-dedans, il s'agit que les autres tribus puissent conquérir cette partie du territoire. La part du lion, si vous voulez, hein, l'essentiel du territoire à conquérir. Mais évidemment, il y a déjà des peuples sur place, et je vous donne un exemple, Jérusalem, au XIVe siècle, donc un peu avant. On sait qu'il y avait des gens, et en plus on a des petites informations là-dessus, on sait qu'il y avait un roi de Jérusalem, qui régnait sur Jérusalem et les environs. On appelle ça des cités-états, un petit peu comme Paris et le Grand Paris, si vous voulez, hein, une ville qui domine sur les environs, et avec un roi qui écrivait au pharaon. Parce que les petits rois comme ça de Canaan, il y en avait une ribambelle, toute une série de petites villes, enfin, petites villes, tout est relatif, hein, je veux vexer personne, hein, j'habite à Meulan, donc voilà. On avait toute une série de villes qui étaient contrôlées par des rois. Donc pas un gouvernement unifié, mais des sortes de maires, hein, finalement, plus ou moins puissants. Et ils étaient soumis au pharaon. Ils étaient ce qu'on appelle les vassaux, des vassaux du pharaon. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit la dernière fois, hein, c'est une façon politique de se situer par rapport à un empereur ou un roi qui est puissant et qui vous protège, mais à l'égard duquel vous avez des devoirs. Or, ces rois ont écrit des lettres sous cette forme-là au pharaon en se plaignant parce qu'il y avait ils avaient des problèmes localement, ils voulaient l'aide du pharaon qui était leur protecteur. Alors c'est passionnant parce qu'on a retrouvé quelque chose comme 300 lettres de ce type-là, et de Jérusalem je crois qu'on a trouvé quelque chose comme 4 ou 6, et elles sont écrites dans une langue et une écriture qui sont assez fameuses. C'était l'anglais de l'époque, si vous voulez, la langue internationale, ce qu'on appelle acadien. A-K-K-A-D-I-E-N. C'était la langue de Mésopotamie. Et c'est l'écriture de Mésopotamie, l'écriture cunéiforme. Une écriture très compliquée. Vous avez un roseau, et vous écrivez sur l'argile avec des petits signes. Moi, j'ai étudié un petit peu ça, et on apprend tout pour l'examen, après on oublie tout, parce que c'est très très compliqué, hein, vraiment. Il y a 600 signes au total. Enfin, ça veut dire qu'au XIVe siècle, on avait une population locale avec un roi, avec des scribes qui avaient une connaissance sophistiquée, capable d'écrire dans cette langue internationale, en lien avec l'Égypte. Donc nous savons que Jérusalem n'a pas été construite par David, elle était occupée avant. J'aurais pu vous montrer un texte encore plus ancien. Donc il y a des gens sur place, c'est ça qu'il faut retenir, qui sont bien installés avec des villes, des fortifications, des remparts, des rois, etc. Alors, à partir de là, d'après le livre de Josué, sixième livre de la Bible, les Israélites vont rentrer, vous voyez, par le nord de la mer Morte, et vont lancer des campagnes militaires. Ils vont pousser par là vers le sud et puis vers le nord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon le livre de Josué, nous ne sommes pas dans une guerre comme on en fait aujourd'hui. Il s'agit de batailles de déstabilisation. Les Israélites ont une sorte de quartier général par là, Gilgal, et ils font des incursions pour aller se battre contre tel ou tel roi, vaincre, et comme ça déstabiliser le reste du pays. Mais ils ne s'installent pas forcément automatiquement dans une ville. Pas comme s'ils prenaient une ville pour s'y installer aussitôt. Ils mènent des raids contre les armées ennemies, et ils déstabilisent l'ennemi. C'est presque une guérilla. On pourrait presque, c'est un petit peu exagéré, mais on n'est pas dans une guerre conventionnelle, ou en tout cas une guerre moderne. Alors, on dit parfois, vous lirez parfois dans des livres, hein, encore aujourd'hui, des archéologues disent que selon le livre de Josué, les Hébreux ont mené une guerre éclair en détruisant plein de sites archéologiques aujourd'hui, enfin plein de villes, dans ce pays de Canaan. C'est ce qu'on parle parfois de blitzkrieg, hein, pour utiliser le mot allemand. Et on dit parfois que c'est ce qu'affirme le livre de Josué. Alors en fait, c'est faux. D'abord, il n'est pas sûr du tout que les gens se battaient à l'intérieur d'une ville. C'est tout petit, vous allez en Israël, vous verrez, ce n'est pas des lieux de bataille. On devait se battre dans les champs, au pied des villes. Ensuite et surtout, La Bible, enfin le livre de Josué, ne cite que trois villes qui ont été détruites par les Israélites. Ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Il y a seulement trois villes qui ont été détruites, alors par le feu, on faisait un incendie, tout simplement parce que les Israélites n'avaient pas intérêt à détruire les villes qu'ils voulaient occuper ensuite. Tant qu'à faire, autant récupérer les maisons. Et Dieu dit à un moment donné au peuple, vous allez récupérer des maisons que vous n'avez pas bâties. Ce sera facile pour vous, dans un sens. Donc, c'est important de se rappeler ça parce que les archéologues affirment parfois, ou même les historiens, que le livre de Josué présente les choses d'une manière très 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 exagérée, voire complètement fictionnelle, en disant que les Israélites sont arrivés, ont tout conquis en 5 minutes, et ont détruit plein de villes, alors que eux, archéologues, ne trouvent pas ça sur le terrain. En fait, je vais essayer de vous montrer ce qu'on trouve concrètement. Sachant qu'il n'y a que 3 sites qui ont été brûlés par les Israélites, de ce côté du Jourdain. 3 sites sont les suivants. Jéricho, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça, parce qu'il y a une histoire fameuse. Aïe, et puis, alors c'est toujours, là c'est en anglais, un Tel Hatzor, ou parfois on écrit H-A-T-S-O-R, ça dépend de vos bibles, hein, ou H-A-S-O-R, peu importe, Hatzor, bon. Alors allons voir un petit peu à Jéricho. Donc on est au nord de la mer Morte, c'est le Jourdain, Jérusalem c'est plus par là, et on a Jéricho, et voilà par exemple quand vous visitez ce que vous pouvez voir, des restes de remparts en briques, je ne sais pas si vous voyez mais ce sont des briques qui sont vraiment en train de s'abîmer, ça a l'air libre, et ça ce sont des remparts qui datent de bien avant l'époque de Josué. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? D'après le livre biblique, Dieu a permis, de manière miraculeuse, enfin on n'a pas de détails, que les remparts s'effondrent devant les Israélites. Vous savez, ils font 7 fois le tour de la ville avec des trompettes, etc. Et comme une sorte de liturgie, c'est un peu étonnant. Et blam, les murailles s'effondrent, ils prennent la cité. C'est un peu controversé parce que pour beaucoup d'historiens, beaucoup d'archéologues, on vous dit qu'à l'époque, la ville en fait n'était pas occupée, qu'il n'y avait personne. Et que donc, en fait, le récit biblique est une fiction, puisqu'on fait comme si on avait conquis une cité qui était vide, en réalité. En fait, il faut savoir que c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est ce qu'on dit souvent dans la vulgarisation. En réalité, si vous lisez les livres d'archéologues un peu plus sérieux, ou disons qui sont plus rigoureux, vous verrez que c'est plus compliqué que ça. On trouve peu de vestiges de l'époque de Josué, à Jéricho. Mais j'ai regardé le livre écrit par un manuel classique d'archéologie, écrit par l'un des meilleurs archéologues d'Israël, et il dit lui-même, et c'est pas quelqu'un qui cherche à tout prix à défendre la Bible, à la même page du livre dont je vous parle, il dit que la Bible se trompe ailleurs. Donc c'est pas quelqu'un qui veut défendre la Bible à tout prix. Mais il explique qu'en fait, il y a au moins 3 explications possibles au fait que sur le terrain, les archéologues ne trouvent pas de traces des fameux remparts, par exemple, ou ils trouvent pas beaucoup de traces d'occupation. Alors il dit, en fait, il se peut tout simplement, même si ce n'est pas très intuitif pour nous, que le site archéologique, les vestiges de cette époque-là, aient disparu par érosion. Vous savez, l'érosion, vous avez sans doute entendu parler, parce que le vent, les éléments, ça creuse des canyons, par exemple, etc. Mais pour les sites archéologiques, c'est un phénomène qui est attesté à plusieurs endroits, ce n'est pas que pour Jéricho, ce n'est pas unique, entre le vent, la pluie, etc., les choses disparaissent si vous les laissez à l'air libre pendant des siècles. En fait, c'est encore ce qui est en train de se passer là. Si vous regardez là, on a une sorte de l'argile qui bave, si je puis dire, à cause de la pluie, et parce que c'est laissé à l'air libre. D'autant plus que ce sont des briques en argile, donc ce n'est pas particulièrement résistant. Or, c'est ce qui se produit sur plusieurs sites archéologiques, et il se peut que ce soit la raison pour laquelle on ne trouve pas grand-chose à Jéricho. Tout simplement. C'est frappant, mais Jéricho semble avoir été abandonné pendant, certains estiment que ça a été abandonné pendant 4 siècles après sa destruction, à l'époque de Josué. Auquel cas, on peut comprendre que les choses aient disparu en bonne partie. Il y a une deuxième explication, c'est qu'une fois que les remparts sont effondrés, bien comme pour à peu près n'importe quel bâtiment de l'Antiquité, on prend l'habitude de démanteler les vestiges et de récupérer les pierres pour d'autres constructions. Ça se fait, c'est quelque chose d'assez classique en fait. Quand vous avez, par exemple, la tour de Babel, si vous avez entendu parler de ça, a été démantelé et on s'est servi. C'est devenu une carrière où les gens venaient se servir des pierres pour reconstruire autre chose. Mais ça se fait encore localement, je veux dire, c'est un grand classique. Tant qu'à faire, autant se servir des pierres déjà présentes. Donc il se peut tout simplement qu'on ait démantelé les vestiges et que du coup, les archéologues ne les retrouvent plus. Et l'archéologue dont je vous parle, fournit une troisième explication possible. Il se peut, en fait, que les remparts de l'époque de Josué aient été des remparts qui étaient en utilisation depuis des siècles. Je vais vous prendre un exemple. J'ai vécu à Avignon. À Avignon, vous avez des remparts. Pas très impressionnant, il faut le dire. Enfin, c'est des remparts. Et ils ont quelque chose comme 800 ans. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Donc si vous allez aujourd'hui, en tant qu'archéologue à Avignon, vous allez vous dire, les remparts d'Avignon en 2015, en fait, si je regarde leur date, c'est peut-être 1200. Donc il y a un problème de chronologie. Et il est possible que les remparts que nous trouvons, enfin que les archéologues trouvent à Jéricho, ne soient pas de l'époque de Josué, ce qui est un peu décevant d'un certain côté, simplement parce qu'à l'époque de Josué, on utilisait des remparts qui avaient des siècles d'existence. Je reprends. Vous arrivez sur place, vous dites, allez, je cherche les remparts de Josué. Je veux des remparts qui datent d'à peu près 1200 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Vous regardez, ah non, tout ce que j'ai comme remparts, c'est des remparts de 1600 avant, bien avant Josué. Mais c'était peut-être cela qui était en usage du temps de Josué. Vous me suivez? Donc en fait, je vous le dis parce que vous trouvez ça dans tous les livres d'archéologie ou les magazines, Jéricho, c'est une fiction parce qu'il n'y avait rien à l'époque. C'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs scénarios. Donc, parmi mes trois sites que je vous ai mentionnés, conquis par et détruits par Josué, celui-là, on peut dire que les données sont ambiguës, si on compare ce que dit la Bible et ce que disent les archéologues. C'est ambigu. Il y a un deuxième site qui est Aï, un drôle de nom, hein, et en fait, alors, il faut avoir de bons yeux, il se trouvait apparemment pas très loin de la ville de Bethel, qui était une ville assez importante parce qu'il y avait un sanctuaire, plus tard. Certains situent la ville de Haï par là. En fait, il y a un débat, on n'est pas sûr d'où elle se trouve. Il faut savoir qu'en archéologie, vous n'arrivez pas sur un site archéologique en trouvant une pancarte. Ici se trouvait l'ancienne ville de Haï. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des sites archéologiques qui sont fouillés pendant des décennies sans qu'on sache de quelle ville il s'agit. C'est terrible quand même, mais c'est comme ça. Donc pour Haï, il y a un débat. Et en fait, il faut savoir que Haï, en hébreu, ça veut dire ruine. Donc certains pensent qu'en fait, à l'époque, il n'y avait même pas une ville organisée, il y avait juste un petit poste militaire sur des ruines, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des scènes comme ça, vous avez des postes militaires où il y a juste quelques orques et puis voilà, non quelques soldats. Donc c'est une ville sur laquelle les données sont aussi très très ambiguës. On n'est même pas sûr de savoir où elle se trouve. Pour l'instant, c'est vraiment pas de chance. Hein. Voilà. Bonne nouvelle pour la ville de Hatzor, tout au nord. On a trouvé des choses intéressantes. Voilà une vue aérienne d'une partie du site archéologique. Vous avez des choses intéressantes, mais qui datent d'une autre époque. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'il y a sous ce chapiteau, qui est moderne évidemment, hein, ça ne date pas de l'époque. C'est pour protéger ce qui se trouve dessous. Qu'est-ce qui se trouve dessous? Le palais du roi cananéen du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, dans cette ville. Et dans ce palais, si vous allez voir, vous avez des restes des murs. Alors ça, c'est reconstitué, les briques. Quand vous visitez un site archéologique en Israël, il y a toujours une sorte de marque comme ça, qui est faite alors soit en bois, soit avec une sorte de ciment, qui délimite ce qu'on a retrouvé qui est de l'époque et ce qui est reconstitué. Ce qui est au-dessus est reconstitué par les archéologues pour qu'on voit à quoi ça ressemblait. Donc ça, ce sont des briques qui sont modernes, mais derrière, vous avez les vraies briques d'époque, qui ressemblent à ça, effectivement. Et puis, très intéressant, vous avez des sortes de supports en basalte, si ma mémoire est bonne. Si vos yeux, à vous, sont performants, vous pouvez voir qu'elles ont éclaté. Elles ont carrément, pas implosé, mais explosé. Et ça ne se produit que s'il y a une température qui est celle d'un incendie. Donc les archéologues savent que ce palais royal a été incendié au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, selon beaucoup de gens, exactement l'époque de Josué. Vous me suivez? Donc sur ce site archéologique-là, il est plausible, voire probable, qu'on ait trouvé les traces de la destruction par Josué et son armée de la ville de Hatzor. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On ne peut pas prouver que c'est ça, hein, ce n'est pas une preuve. Parce qu'il n'y a pas marqué d'étiquette ou de plaque, moi, Josué, plaque commémorative, j'ai brûlé cette ville en telle année, etc. Non, hein, on n'a pas de... On pourrait théoriquement imaginer que c'est des Égyptiens qui sont venus détruire la ville, etc. C'est possible aussi. Mais disons que ce qu'on a, ça colle parfaitement avec le récit biblique. Donc, tout ça pour vous dire, sur les trois sites archéologiques, les seuls sites archéologiques concernés par la conquête de Canaan, il y en a deux pour lesquels les données sont ambiguës, et un pour lesquels les données concordent bien entre l'archéologie et la Bible. J'insiste là-dessus parce que si vous achetez, je sais pas, Le Point, tous les ans il y a un magazine, au moins un numéro sur la Bible, ou Le Monde de la Bible, ou des revues comme ça qui sont très bien hein, par ailleurs, hein, vous trouverez souvent des gens qui vous disent « Non, c'est une fiction, on le sait, puisqu'il n'y avait rien à Jéricho, etc. » En fait, si vous allez voir les vrais livres d'archéologie professionnelle, c'est plus compliqué que ça. Alors, bon, ça ce sont des sites archéologiques. Maintenant, je voudrais vous... J'espère frapper vos esprits, je ne sais pas, hein, avec les deux cartes suivantes. À gauche, vous avez en couleur, en couleur, les contours du territoire promis à Israël. À droite, vous avez les contours du territoire effectivement conquis par les Israélites selon la Bible. Alors, si vous comparez les deux, vous voyez qu'ici, c'est nettement plus petit que ce qui était promis, ce qui était annoncé. Et je refais le tour, hop, tout ça, en gros, hein, y compris ce qu'on serait la bande de Gaza aujourd'hui, et puis jusque-là. Et là, le tracé est beaucoup... Alors là, c'est pas mal, du côté de la Jordanie, tout se passe bien. Mais là, par contre, vous voyez, on a, ici, il y a une sorte de gros trou. On n'a pas réussi à conquérir tout ça, le territoire des Philistins. Et puis on a même une trouée ici. Donc ça c'est très important de se rappeler cette donnée. D'après la Bible elle-même, la conquête a été nettement inachevée. C'est important. Alors tout ce PowerPoint vous pourrez l'avoir, hein, je le dis entre parenthèses si vous êtes intéressé. Donc ça c'est important de s'en rappeler parce que la Bible nuance elle-même le modèle de la conquête. C'est pas du tout un blitzkrieg, une guerre éclair, où on va tout conquérir en peu de temps, sans coup férir. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et selon la Bible, une des raisons à cela, c'est que les Israélites n'ont pas obéi à Dieu, n'ont pas voulu éliminer tous les Cananéens qui se trouvaient devant eux. On va en reparler, parce que c'est une question d'éthique derrière. Un point d'interrogation, ça nous titille un petit peu. Enfin, c'est important de se rappeler cela. Et vous savez que dans la période des juges, on le verra tout à l'heure, les fameux Philistins qui se trouvent ici vont causer bien des problèmes hein, aux Israélites. C'est un petit peu comme les Romains et le village d'Astérix. On a toujours des petites frictions, on va dire. Alors justement, j'insiste sur le fait que l'histoire de Josué est moins simple qu'il n'y paraît. Oui, alors David a été plus loin que ça. Ouais, c'est tout à fait. Tout à fait. Sans non plus arriver, les Philistins, ça restera toujours quelque chose un petit peu à part. Ils ont, ouais. Pardon ? Oui, alors peut-être, j'essaie de mettre les deux cartes plus ou moins en face l'une de l'autre, il se peut qu'il y ait un tout petit décalage comme ça. Ouais. Mais Dan est conquise, hein, et elle s'appelait Laïch avant, on précise même. Oh, oui, non, c'est la même. C'est à peu près la limite nord du pays. Un petit peu plus haut, tu as le mont Hermon. Alors, j'insiste sur le fait que l'histoire de Josué est moins simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, il y a les images d'Épinal, hein, les idées clichés, et puis il y a la réalité du texte biblique. Et les gens ne font pas toujours attention à ça, même les spécialistes, donc j'insiste. Hein. Première chose, est-ce que c'est vraiment une guerre éclair, comme on le dit souvent ? Non. Le livre de Josué, lui-même, vous indique que ça a duré longtemps. Et on voit même que Josué est vieux, hein, à un certain moment du livre de son propre livre, justement. Donc c'est quelque chose qui a duré longtemps, ça ne s'est pas fait en un jour. Il faut plutôt imaginer, même si on manque de détails, un peuple qui mène des incursions, qui arrive à s'installer à un endroit, et puis qui a du mal à conquérir telle région, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises, et petit à petit on s'installe au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui s'est fait en une année. C'est comme ça. Deuxième point, est-ce qu'il s'agit simplement d'une histoire purement militaire entre des armées humaines qui se battent, une parmi des milliers d'histoires de guerres sauvages où on se massacre? En fait, la Bible insiste sur le fait qu'il y a une dimension supplémentaire. Alors après, on est croyant, on n'est pas croyant, on croit ou pas aux interventions de Dieu, mais c'est ce que prétend le livre. Et je vous ai cité plusieurs exemples. D'abord, Josué rencontre le, je cite, « chef de l'armée du Seigneur ». Ça fait partie de ces passages très mystérieux où vous avez quelqu'un qui semble être... Alors, est-ce que c'est un ange ou quelque chose? C'est un peu mystérieux. Mais Josué, avant de partir en bataille, avant même qu'il y ait des combats, se retrouve nez à nez avec quelqu'un qui a une épée et qui, bon, aujourd'hui on dirait un ange en fait, hein, je pense, une sorte d'apparition. Et tenez-vous bien, c'est le chef de l'armée du Seigneur. Mais rappelez-vous que le chef de l'armée, normalement, c'est Josué lui-même. C'est un peu comme si notre pasteur, Frédéric, avait une révélation, une vision de quelqu'un qui lui dit « Je suis le pasteur de l'Église ». c'est moi, non ? Enfin, voilà. Or, c'est intéressant parce que dans le texte biblique, ça fonctionne comme un petit, presque un pied de nez ou une façon de relativiser les choses, comme si Dieu disait à Josué « D'accord, tu es le chef de l'armée humaine, mais en parallèle, il y a des coulisses que tu ne vois pas, où il y a le chef de l'armée, des anges, enfin c'est pas précisé, hein, quelque chose de mystérieux où Dieu combat en parallèle. Alors, ça décoiffe un petit peu, mais c'est la réalité du texte. Deuxième point, on vous dit à un moment donné que Dieu fait tomber des grêlons sur les ennemis. Alors, on n'a pas les détails, hein, grêlons, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, moi. Mais en tout cas, on vous dit qu'ils font tomber plus de victimes que les Hébreux. Autrement dit, l'action secrète de Dieu, par la météo ou j'en sais rien, hein, fait plus de victimes dans une bataille précise que les armes des Hébreux. Ça, c'est intéressant, ça relativise sacrément l'idée d'une super armée d'Hébreux qui va tout conquérir d'un seul coup toute seule. On n'a pas les détails, c'est quand Dieu fait des miracles dans la Bible, parfois il le fait avec les éléments naturels, même quand il fait traverser la mer Rouge aux Hébreux. On vous dit qu'il a fait pousser toute la nuit, il a fait souffler un vent, un puissant vent d'Est. Donc il se sert des éléments naturels. Hein. C'est complexe, l'histoire des miracles dans la Bible. Mais enfin, Dieu agit. Et puis on vous dit lui-même, j'ai mis des références pour aller voir si vous voulez, hein, Dieu lui-même combat pour les Hébreux. Autrement dit, même si, bon voilà, hein, suivant qu'on y croyant ou pas, on peut avoir un rapport différent à ce que dit la Bible et puis à la question des miracles, et même si les croyants feront confiance, les non-croyants seront plus méfiants, il n'en reste pas moins que le texte relativise l'idée d'une armée de super conquérants qui vont tout conquérir tout seuls. Ils ont terriblement besoin de Dieu. Et Dieu fait apparemment au moins la moitié du travail pour eux. Même si ça reste complètement mystérieux, Dieu agit pour le peuple. Ça, c'est important de s'en rappeler. Et troisième point, on pourrait avoir l'impression que Dieu manifeste une préférence inconditionnelle pour une ethnie, pour les Hébreux en fait, hein, et qu'il va leur permettre d'anéantir les méchants cananéens, parce que lui a son peuple à lui qu'il aime inconditionnellement, alors que les autres, ils s'en moquent complètement. Ça serait une façon caricaturale de voir les choses, mais on pourrait avoir cette tentation-là. De dire, bah oui, il y a les Hébreux, c'est les gentils, les Cananéens, c'est les méchants, et avec l'aide de Dieu, les premiers vont tuer les deuxièmes, les seconds. C'est pas du tout comme ça, en fait, dans le texte. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. D'abord, on a des exceptions. Mais des exceptions qui frappantes. Rappelez-vous que dans la ville de Jéricho, toute une histoire avec des espions, etc., mais il y a une dame qui va aider les espions Hébreux, et c'est une. Alors, on peut traduire par prostituée. Certains disent que c'était une sorte de, je sais pas comment il faut dire, tenancière d'un cabaret où se passaient des choses plus ou moins obscures entre hommes et femmes. Je ne rentre pas dans les détails. Hein, plusieurs façons de traduire. Mais enfin, elle s'appelait Rahab et c'est une cananéenne. Donc c'est vraiment pas le modèle de vie prôné par la Bible. Et pourtant, comme elle a compris en fait, hein, elle a tout compris hein, de ce que Dieu était en train de faire dans la région, elle manifeste une forme de foi, et elle va être épargnée lors de la conquête. Donc c'est quelqu'un du camp ennemi qui est épargné par Dieu à cause de son comportement, sa foi en Dieu. Même si c'est une foi un petit peu naissante et élémentaire, quoi, rudimentaire. Mais à l'inverse, vous avez un bon Israélite qui a son passeport hébreu et tout ce que vous voulez, qui lui va se faire éliminer, ainsi que toute sa famille, parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas le simple fait d'appartenir à un camp ou à l'autre qui va décider de votre destin. Vous pouvez très bien être un bon Israélite sur le papier, et être éliminé par Dieu, et être une cananéenne prostituée de l'autre côté, et être sauvé par Dieu. Donc ça, c'est un petit détail qui tue. Plus loin, mais c'est frappant quand même, Josué prévient les Hébreux, il leur dit « Ok, Dieu vous donne le pays, tout va bien, mais si vous faites comme les Cananéens, qui avaient un comportement moral répréhensible, je vais y revenir, aux yeux de Dieu, Dieu pourra très bien vous chasser, vous aussi, du territoire. Autrement dit, je ne suis pas derrière vous de manière inconditionnelle. Votre comportement a une importance à mes yeux. » C'est comme si Dieu disait ça. Et alors, il y a même un verset qui est frappant, j'ai plus la référence, mais où, vous savez, quand Josué se trouve face au fameux ange, là, au chef de l'armée du Seigneur, il lui dit « Est-ce que tu es pour nous ou contre nous ?» Et le chef de l'armée répond, si ma mémoire est bonne, il répond oui. Alors après, il dit un truc, est-ce que tu es pour nous ou contre nous ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse ? C'est pas clair, en fait. C'est-à-dire que il choisit pas comme ça un camp en absolu, comme si c'était un nationaliste ou je sais pas quoi. Ouais. Les Hébreux sont mon peuple et les autres, je vais tous les éliminer. Non, il y a des sortes de lignes de fracture comme ça, on vous montre que c'est plus compliqué que ça. Le Seigneur regarde plus loin que l'appartenance ethnique. Et c'est dans le prolongement de ce qu'on savait déjà. Parce que dans l'Exode, on vous dit qu'il n'y a que dans le peuple hébreu, enfin dans ceux qui sortent d'Égypte sous la direction de Moïse, il y a aussi des Égyptiens qui se sont mêlés au peuple, population mêlée. Donc si vous voulez, l'idée d'un peuple d'Israël aux frontières étanches, qui est ethniquement pur et préservé de tout le reste, ça n'a jamais été vrai. Dans le reste de la vie, ça continuera, il y aura toujours des frontières poreuses. Vous avez l'exemple de la fameuse Moabite, jordanienne si vous voulez, Ruth, qui va non seulement rentrer dans le peuple d'Israël, mais qui en plus sera une arrière-grand-mère, ou je ne sais plus quoi, du roi David. Hein ? Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Vous avez des petits détails qui tuent, comme ça dans le texte, qui vous montre que le vrai critère pour Dieu, ce n'est pas l'appartenance ethnique à tel ou tel peuple, c'est le critère de l'intérieur, de la spiritualité, l'état spirituel des gens. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez une tension constante entre le fait que Dieu a quand même choisi d'élire un peuple dont il va se servir pour ses plans et qu'il va bénir, et Dieu ne se repent pas de ça, hein, nous dit le Nouveau Testament. Donc Dieu agit avec un peuple, qui protège, etc. Mais d'un autre côté, à la moindre occasion, si vous voulez, il vous montre que ce n'est pas juste parce qu'il les a élus qu'il va les préférer et qu'il n'aime pas les autres. Et ses préoccupations ultimes sont d'ordre spirituel. Donc, aux yeux de Dieu, individu par individu, ce qui compte, c'est un critère qui est transversal par rapport au peuple, aux différents peuples. C'est un critère spirituel. Quel est l'état de telle ou telle personne ? Sa foi, son comportement, etc. C'est pas juste, il est de telle ou telle ethnie. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est important de comprendre que dès l'Ancien Testament, les textes déconstruisent, détricotent, si vous voulez, les clichés qu'on pourrait avoir où Dieu est un Dieu un petit peu caractériel, qui a son peuple et qui n'aime pas les autres, par exemple. Alors, je continue un petit peu. Oui, juste avant d'arriver au point suivant, je rajoute une couche. Quand vous lisez le livre de Josué, donc si vous le lisez, vous le relisez, etc., vous avez des récits, une première moitié du livre, on va dire, où vous avez des récits de bataille, ou de pas bataille d'ailleurs, hein, puisque Jéricho, il n'y a pas de bataille. Hein. Dieu donne la victoire sans bataille. Bon, ça va, ça se lit, hein, on aime bien lire. Et puis après, vous avez des chapitres assez longs, où on vous décrit les territoires qui sont accordés aux Israélites, donnés par Dieu à telle ou telle tribu. Et ça, c'est assez terrible à lire hein, pour les lecteurs modernes. En fait, il faut bien comprendre que pour nous, ça ne nous parle plus du tout. Alors, ça peut vous parler si vous voyagez en Israël. En fait, il faut imaginer que c'est comme si nous, on disait en France, voilà, je ne suis pas très bon en géographie, hein, je vais prendre la Provence. Alors, à telle tribu, je vais donner la Provence, et puis la frontière du territoire passera par Avignon, par Valence, et puis après, on va passer par Apt, il y aura le Luberon dedans, etc. Enfin, joli coin, hein, entre guillemets. Alors là, si vous connaissez un peu la géographie française et surtout le sud, vous dites, ouais, c'est sûr. Enfin, vous dites, super, les Provençaux, ils sont tout contents. On dit, oui, ça c'est notre territoire que Dieu nous a donné, on est fiers, on est heureux de cette région-là. Pareil pour la Bretagne, l'Alsace, le Vexin, tout ce que vous voulez, le Mantois, j'en sais. Bon, donc il faut bien comprendre que si pour nous ce sont des chapitres difficiles à lire, pour quelqu'un qui connaît un peu le terrain, c'est magnifique. On vous raconte votre région et ce que Dieu vous donne. Donc ça, il faudrait presque le lire avec une carte sous les yeux, une carte très détaillée, pour suivre le parcours des régions, des frontières des régions. Le deuxième point, là-dessus, à bien retenir, c'est que ce sont des territoires alloués, donnés par Dieu au peuple, en principe. À charge du peuple de les conquérir. Et c'est là qu'il faut vous rappeler la carte, où vous voyez bien qu'ils n'ont pas tout conquis. Donc, ce qu'il y a dans le livre de Josué, c'est un programme. Voilà ce que je donne à telle ou telle tribu. Maintenant, allez les conquérir. Et concrètement, le livre de Josué le dit déjà, et le livre des juges, juste après, le répète, et le dit encore plus en détail, concrètement, ils n'ont pas rempli ce programme. Hein? Donc il y a une différence entre eux. Voilà. Et l'idée du massacre des Cananéens, je vais en reparler, il faut toujours se rappeler qu'en fait, les Hébreux ne l'ont pas fait en intégralité. Donc c'est pareil, il y a le programme et sa réalisation. Et il y a beaucoup d'inaccomplis, d'inachevés dans le livre de Josué. Alors tout ça, je vous ai parlé un petit peu du contenu, du texte, du rapport avec l'archéologie, etc. Et maintenant, je passe au côté un petit peu spirituel. Qu'est-ce que ça représente, cette histoire de conquête dans la Bible, pour la révélation de Dieu à l'humanité? Ou quel message spirituel il veut faire passer dans ce livre-là? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement, même aujourd'hui? Alors, je vous donne quatre pistes, et ce sont des pistes de réflexion. Je ne prétends pas que c'est la vérité absolue, enfin que c'est la parole définitive sur le sujet, mais trois pistes de réflexion. Premier enseignement pour nous, premier point à méditer, à réfléchir, c'est l'élimination des Cananéens. Ça, c'est dérangeant, c'est un aspect dérangeant du texte, et en même temps, ça nous interroge. Je vous rappelle que Dieu dit à Josué, etc., vous allez détruire, vous allez les éliminer. Donc aujourd'hui, on parlerait presque de génocide. Donc du coup, évidemment, ça interpelle les lecteurs chrétiens ou pas, d'ailleurs. Hein. Alors, je ne prétends pas résoudre le problème, hein. Il y a des bouquins entiers sur le sujet. Il faut se dire, mais comment est-ce qu'il faut comprendre ça, hein. Je dis juste quelques remarques, quelques balises, et puis après, vous demanderez à un pasteur de prêcher là-dessus, si vous voulez. Je fais toujours ça, comme ça. Alors, premier point, je vous rappelle, c'était une expérience qui était unique. Non reproductible. C'est certain. En fait, c'est pas un modèle hein, d'aller détruire un peuple ennemi. C'est intervenu une seule fois et sur un ordre explicite, on va dire, de Dieu. Et il n'a d'ailleurs pas été totalement suivi des faits. Donc, c'est pas. On va voir que le livre de Josué, il y a l'île de la conquête, ça parle encore aujourd'hui pour les chrétiens, mais c'est pas un texte où on vous dit vous pouvez aller conquérir. Alors, j'en sais rien. Les États-Unis d'Amérique, en éliminant les Indiens, les méchants Indiens qui ont leurs coutumes païennes, leurs dieux bizarres et tout, et en vous installant, vous, chrétiens, aux États-Unis. Ça, c'est pas une bonne piste d'application du texte, si vous voulez. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc, c'est certainement pas un texte qui dit carte blanche, quand vous estimez que vous êtes le peuple de Dieu, vous pouvez éliminer les autres peuples. Certainement pas. C'est vraiment, voilà. Ça, c'est important. Deuxième point, cette pratique d'éliminer toute une population dans une ville, par exemple, c'est terrible à dire, mais elle choquait peut-être moins dans l'Antiquité. Je vais signaler qu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, vous avez un roi moabite, donc en Jordanie, qui s'appelait Mécha, et dont on parle dans la Bible, hein, d'ailleurs, qui se vante d'avoir fait ce genre de massacre sur une stèle qui se trouve au musée du Louvre. Si c'est le Louvre, vous pourrez la voir, une belle stèle très importante. Et il affirme hein, avoir fait ce genre de choses. Y a un mot technique hein, qui veut dire comme ça élimination des ennemis en quelque sorte. Donc nous évidemment c'est terrible hein, à nos yeux, mais il faut savoir que dans l'Antiquité c'était presque, entre guillemets, plus acceptable, ça se faisait. Ça ne veut pas dire que ça plaît à Dieu. Hein. Mais dans l'Ancien Testament, vous trouvez pas mal de choses qui ne plaisent pas dans l'absolu au Seigneur, mais que, dont il tolère la présence. Bon, je pense à la polygamie, par exemple. Je ne pense pas que Dieu aime ça, mais c'est un sujet complexe. Mais dans l'Ancien Testament, David a plusieurs femmes, etc. L'esclavage, même dans le Nouveau Testament, ce n'est pas interdit. Alors je ne pense pas que ce soit l'idéal de Dieu pour les êtres humains. Mais Dieu parfois, condescend à laisser certaines pratiques humaines, parce qu'on ne peut pas faire comme si on était tous transformés en des êtres purs et parfaits, qui vont d'un seul coup se comporter de manière idéale. Ce n'est pas facile, mais voilà. J'ajoute que si cette pratique du massacre repousse aujourd'hui les chrétiens, et les juifs aussi, c'est précisément l'effet du message porté par l'ensemble de la Bible. Autrement dit, quand vous regardez la Bible, il faut faire très attention à ne pas avoir des affirmations catégoriques en disant « la Bible justifie ceci ou cela ». Si, dans la réalité, vous avez une partie où il y a une histoire très particulière, non reproductible, c'est produit une fois, où Dieu a autorisé telle chose, et si dans tout le reste de la Bible, on vous fait comprendre qu'il ne faut pas tuer les autres peuples. Vous voyez, il faut regarder l'ensemble du témoignage de la Bible. Et si nous sommes parfois choqués par ce que dit le livre de Josué, ben c'est justement à cause du reste de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière l'histoire de droits de l'homme, etc., il y a pas mal d'influences, ce qu'on appelle l'éthique judéo-chrétienne, qui est beaucoup critiquée aujourd'hui, mais qui en fait se trouve en arrière-plan de beaucoup de convictions de nos contemporains, du point de vue éthique. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Je souligne aussi, entre parenthèses, que si vous regardez l'histoire assez récente, au XXe siècle, il y a des choses comparables qui ont été faites, qui sont très controversées, mais ça a été fait par des gens qui nous paraissent être les gentils, entre guillemets, dans les guerres. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, les Anglais en particulier, ont bombardé des villes. Hein, pensez à Dresden, par exemple, Dresde. Des villes qui ont été rasées, mais vraiment de manière choquante, quoi. Et ça a été fait, quoi. Ça a été fait. Alors, on en discute encore, en disant, c'était quand même... Même Churchill lui-même, à un moment donné, disait, en voyant des photos, j'ai lu une biographie de lui il n'y a pas très longtemps, enfin un ouvrage sur lui, il disait, mais est-ce qu'on est devenu des bêtes, quoi? Parce que balancer des bombes incendiaires sur toute une ville, et donc sur les civils, c'est quand même gênant d'un point de vue éthique, mais ils ont estimé qu'ils devaient le faire à un moment donné. Bon, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je dis que, attention, avant de critiquer le livre de Josué, est-ce que nous, dans des situations comparables, on ne fait pas la même chose? Et je ne parle pas de Hiroshima, etc. Les historiens sont encore en train de discuter pour savoir si ça valait la peine ou pas. Et ça se défend, il y en a qui défendent l'idée que ça valait la peine de larguer des bombes atomiques sur le Japon. Donc au total, il y avait moins de morts à la fin. Je ne prends pas position, ce n'est pas mon sujet, mais je vous signale qu'il faut... Voilà, c'est pas si facile que ça, ces sujets-là. Et parfois, nous n'avons pas de leçons à donner au peuple de l'Antiquité. On n'a pas toujours fait mieux en notre temps. Troisième point, le sort des Cananéens, il est présenté comme un jugement avec un motif moral. En gros, Dieu dit que les Cananéens se comportent d'une manière qui est choquante pour lui. Ils commettent trop de mal. Et ils ont mis un comble à leur faute, à leur péché. Et il va s'exercer sur eux une forme de jugement. Et ils vont être en quelque sorte éliminés du pays. Donc, alors, nous ne sommes pas Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de juger ce que fait Dieu. Mais c'est présenté aussi comme une sorte de jugement moral. Et Dieu affirme à Israël qu'il pourra faire la même chose pour eux si eux aussi ont un comportement moral qui est un comportement qui est dépravé, si vous voulez. Non seulement ils adorent des faux dieux, etc., mais en plus il y a du point de vue du comportement sexuel, etc., des pratiques qui étaient insupportables aux yeux de Dieu. Et ça va atteindre un tel degré que Dieu ne supportait plus. Donc c'est terrible tout ça, mais derrière il y a quand même quelque chose de Dieu qui ne supporte plus le mal des êtres humains. Alors, il n'en reste pas moins que ça nous titille, ça nous dérange, c'est un texte dérangeant, faut le voir, mais ça présente au moins l'intérêt de renvoyer à l'idée, qui est tout aussi dérangeante de nos jours, et cependant bien biblique, comme je l'ai écrit, d'un jugement général à venir. L'idée qu'un jour, Dieu va juger toute l'humanité. Et si Dieu a jugé un jour les Cananéens, il a utilisé un moyen très humain pour les juger, qui n'était sans doute pas, à mon avis, le modèle idéal pour lui de jugement, un massacre, mais ça se faisait comme ça à l'époque. Même si ça nous dérange, ça nous rappelle que nous aussi, nous avons un message en tant que chrétiens qui est quand même dérangeant. Parce qu'un jour, Dieu va juger, ça ne veut pas dire massacrer, mais juger chaque être humain. Et c'est une idée qui déplaît beaucoup à nos contemporains. Mais c'est une idée biblique. On ne peut pas l'évacuer. Et le critère cette fois-ci, c'est pas l'appartenance ethnique, c'est pas le fait d'être cananéen ou français ou israélien ou ukrainien ou j'en sais rien. Ça serait le fait d'avoir un état spirituel devant Dieu, d'être en paix avec lui ou pas. Et c'est pour ça que pour les chrétiens, le fait d'être en paix grâce à Jésus-Christ avec Dieu est particulièrement important. Donc, ce sont des textes dérangeants, les textes de Josué, et je ne prétends pas résoudre les problèmes. Je vous signale quelques aspects pour bien situer les choses, et je vous rappelle que nous aussi, nous avons non seulement dans le passé ce texte dérangeant, mais aussi pour le futur, nous avons un message dérangeant pour nos contemporains, c'est que même si ça déplaît, un jour Dieu va quand même demander à chacune de ses créatures de lui rendre des comptes. Bon, c'était le message un peu sombre du matin. Je continue. Deuxième point, ce qui compte réellement aux yeux de Dieu, je pense que c'est un message subtil du texte, le fait d'appartenir physiquement, extérieurement au peuple de Dieu à l'époque, ça ne suffisait pas. Ce n'était pas ça qui faisait qu'on plaisait à Dieu ou pas. Rappelez-vous l'histoire de Rahab, qui plaît à Dieu alors que c'est une prostituée cananéenne, et l'histoire de Akan, un bon israélite, qui déplaît à Dieu par son comportement. Ça, je pense que ça nous renvoie au fait que pour Dieu, le critère, ce n'est pas juste l'appartenance à un peuple. Et on peut même aller plus loin, on peut se dire, le fait d'appartenir à l'Église visible, c'est-à-dire de venir faire partie de la communauté concrètement, venir tous les dimanches à l'Église, etc., c'est pas ça qui suffit aux yeux de Dieu, certainement pas. C'est pas comme dans l'ancien Israël, on pouvait faire partir du peuple ethnique, du groupe humain, sans plaire à Dieu, on peut très bien fréquenter une église, faire partir du groupe qui se réunit tout le temps, mais sans plaire à Dieu, c'est chacun a sa responsabilité face à Dieu personnellement. Et ça, je pense que déjà la vie de Josué pointe dans cette direction. L'état spirituel de chacun devant Dieu, c'est ça qui compte en définitive. Troisième point, l'idée de notre terre promise. C'est une façon de parler. Mais dans le Nouveau Testament, on fait écho à ces histoires de Josué. D'abord, il faut que vous sachiez que dans l'Épître aux Hébreux, on a un parallèle entre Josué et Jésus. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pour les premiers chrétiens, Josué et Jésus, c'était le même prénom. En grec, c'est pareil. Donc, en fait, quand ils lisaient le livre de Josué en grec, parce qu'à l'époque, ils parlaient grec, c'est comme nous, on lit la Bible en français, eux lisaient en grec. Quand ils voyaient le livre de Josué, en fait, c'était le livre de Jésus pour eux. Donc, partout, c'était Jésus. C'est le même prénom, c'est pas la même personne. Mais du coup, ça favorisait, ça facilitait le parallèle entre Josué et Jésus dans le Nouveau Testament. Alors, c'est pas juste un parallèle pour un nom similaire, ça va plus loin que ça, il y a une similarité, parce que Josué a été celui qui a guidé son peuple vers un endroit qui était l'héritage donné par Dieu à son peuple. C'était le cadeau de Dieu au peuple, voilà un pays dans lequel vous allez vous reposer. Après avoir combattu, vous allez enfin vous installer. Vous êtes sorti de l'esclavage, vous avez traversé tout le désert, etc. Là, vous allez pouvoir vous reposer. Et il y a l'idée d'entrer dans le repos de Dieu. C'est une formule qui est utilisée dans l'Ancien Testament. Oui, mais d'après l'Épître aux Hébreux, les chrétiens sont dans la même situation avec Jésus. Jésus qui sert de guide pour nous mener dans une sorte de terre promise. Alors ça demande un petit peu de réflexion. Et là, je fais une petite pause pour que vous preniez une perspective plus large. Il y a tout un parallèle qui est dressé entre le voyage des Hébreux depuis l'Égypte, où ils sont en esclavage, jusqu'en terre promise, où ils se reposent enfin. Et entre les deux, il y a le séjour au désert, l'itinéraire qui est plus ou moins douloureux. Tout un parallèle entre ça et l'histoire des chrétiens, spirituelle cette fois, où on parle, c'est les mots qui sont utilisés, hein, d'esclavage du péché, du mal. Le fait qu'en tant qu'être humain, on est accro au mal. Je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de faire des fautes, ce qu'on appelle des péchés, un peu tous les jours en fait. Jésus qui nous délivre de ça, un peu comme Moïse si vous voulez, et qui va nous amener dans ce qu'on attend, une sorte de terre promise, mais dans un sens spirituel, et un repos spirituel. Et entre les deux, on est en itinéraire, un petit peu comme dans le désert. Et dans le Nouveau Testament, on fait ce parallèle, et on vous fait comprendre que vous êtes ancré en train de cheminer dans le désert, et que vous remerciez Dieu d'avoir été délivré de l'esclavage, mais du péché cette fois-ci. Vous ne vous sentez plus esclave du péché, même si on continue à faire du mal, ce n'est plus le principe directeur de notre vie, si vous voulez. Le bien que Dieu fait dans nos vies, qui nous fait faire, est plus fort que ça. On est plutôt orienté vers le bien que vers le mal. Et on est en chemin, avec des difficultés, en espérant un jour se retrouver avec Jésus dans de meilleures circonstances. Alors c'est intéressant parce que ça permet à Paul de dire, en parlant des histoires du désert, hein, toutes ces histoires, elles ont été écrites pour nous. Pour nous servir d'exemple. Exemple contre exemple, hein, parce que parfois les comportements, il faut s'en distancer. Les Hébreux n'ont pas toujours eu le bon comportement dans le désert. Mais il dit, hein, dans la première épître aux Corinthiens, il dit, tout ça a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une curiosité du passé, ce n'est pas que pour les archéologues ou les historiens. Le comportement des Hébreux dans le désert, dans cet itinéraire, nous dit quelque chose des erreurs que nous pourrions faire dans notre vie spirituelle, en attendant le jour où le Seigneur reviendra, etc. Ça serait un premier point important. Et le second point sur le sujet, c'est que nous avons une espérance, et que Dieu nous promet un jour, même si on n'imagine pas comment ça sera, on ne sait rien, qu'un jour, Dieu lui-même, Jésus lui-même, règnera sur terre. Et que cette fois-ci, la terre promise, ça sera carrément l'ensemble de la terre. Que d'ores et déjà, nous sommes appelés à entrer dans une forme de repos spirituel. Alors, relisez l'Épître aux Hébreux, c'est qui est assez difficile, et vous verrez qu'il dit, mais empressez-vous d'entrer dans le repos de Dieu, spirituel. Ne faites pas comme ceux qui voulaient rester dans le désert, et qui n'ont pas osé aller dans la terre de Canaan. Et franchissez le cap avec Jésus, hein, saisissez-vous du salut par la foi, hein, et rentrez dans une forme de paix avec Dieu, et de repos spirituel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose de très important dans l'Épître aux Hébreux. Et Jésus est notre nouveau Josué, dans ce sens-là. Dans la même analogie, nous n'avons pas à combattre contre des Cananéens. Le Nouveau Testament insiste sur le fait qu'on ne se bat pas contre des êtres humains, on ne se bat pas avec des armes, mais le combat qu'on a est spirituel. On doit plutôt lutter pour conserver la paix avec Dieu. Lutter pour essayer de faire le bien dans nos vies, de progresser avec le Seigneur, de plus en plus saint, comme on dit, de plus en plus conforme à ce que Dieu voudrait, etc. etc. C'est d'ordre spirituel, on ne se bat pas contre des gens, Dieu merci. Voilà. Donc c'est puissant en fait, cette analogie entre ce qui est arrivé aux Hébreux et ce qui nous arrive à nous aujourd'hui, mais spirituellement. Voilà. Donc voilà, quelques pistes comme ça. Voilà pour la conquête. Maintenant, sans grande transition, c'est la suite de l'histoire, on va passer rapidement à la période des juges. Donc maintenant, le peuple est installé dans la terre promise, tant bien que mal. Ils n'ont pas tout conquis, il reste encore plein de Cananéens dans le pays. Mais les Hébreux vont s'installer durablement sur ces lieux. Alors, comment vont-ils fonctionner? Je vous ai dit qu'ils auront des juges. Alors d'abord, voilà une carte qui n'est pas super bien faite, hein. Ça, c'est un petit peu le programme. Hein. Voilà, les frontières approximatives assignées au peuple durant la conquête. Assignées. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont conquis beaucoup moins que ça. Mais ce schéma, l'avantage, de vous dire, voilà à peu près comment les tribus devaient se situer. Vous voyez, c'est vraiment la France, avec la Bretagne, l'Alsace, le Vexin, et la Provence, et toutes ces régions-là. Hein. C'est très régional. Et si vous visitez Israël, vous verrez que effectivement, en quelques heures, vous êtes passé du quasi-désert à la montagne, quoi, à la prairie. Il y a des régions vraiment aux physionomies très différentes. Je vous rappelle comment fonctionne le livre des juges. C'est une histoire qu'on dit cyclique. Il y a un cycle qui se reproduit constamment. Ce cycle, il comprend quatre étapes. D'abord, vous avez une nouvelle génération qui naît, hein, qui prend la place de l'ancienne. Ça se produit quand même régulièrement. Et elle se détourne de Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, qui a délivré son peuple, pour s'attacher à d'autres divinités, d'autres dieux. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était une tentation tout à fait naturelle. C'est très très étrange que d'adorer un seul dieu invisible, pour lequel on n'a même pas de statue. Il était beaucoup plus tentant d'adorer le dieu qui envoie le tonnerre, qu'on représente par un bœuf, ou un taureau plutôt, tel ou tel dieu qui est spécialisé dans tel ou tel aspect, le dieu qui va combattre contre la mer si vous êtes un marin, enfin, il y avait des dieux spécialisés. Mais adorer un dieu pour lequel on n'a même pas de statue, qu'on n'a jamais vu, qui est invisible et tout, et qui n'a pas une spécialité, mais qui est censé être le dieu de tout, enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable pour le peuple d'Israël. Et donc, il ne tenait pas longtemps, spirituellement, dans cette idée de très haute, d'un Dieu unique, etc. Alors du coup, deuxième étape, Dieu se met en colère. Et il sanctionne son peuple en le livrant entre les mains des peuples étrangers. Par exemple, les Philistins. Les Philistins dont je vous ai déjà parlé. Troisième étape, quand même, Israël réagit. Il vit dans une grande détresse et souvent il crie à Dieu en l'implorant, en disant « Reviens vers nous, délivre-nous ». D'où, quatrième étape, Dieu qui suscite un chef, un juge en fait, c'est ce qu'on appelle ça les juges, qui va délivrer son peuple, par exemple des Philistins. Et le problème, c'est qu'une fois que tout va bien, on a une période de paix de quelques dizaines d'années, et le cycle reprend de plus belle, on se retrouve à la première étape. Une fois que le juge est mort, son leadership a disparu, et on se retrouve à l'étape numéro 1, et on reparcourt le cycle. Ça, c'est ce que vous dit dès le début le livre des juges, une histoire cyclique. Qui n'est pas très très encourageante hein, quand même. Ouais. En fait, c'est un peu pire que ça. En toute rigueur, le livre des juges présente une sorte de spirale descendante. Et ça se voit à plusieurs choses. D'abord, les juges sont de moins en moins juges. C'est-à-dire que les juges, plus on approche de la fin du livre, moins ils sont sages, moins ils se comportent de manière... idéal. Si vous prenez quelqu'un comme Samson, par exemple, le fameux Samson, auquel Dieu donne une certaine force, si vous regardez dans le détail son comportement, en étant assez objectif, vous allez voir que c'est un vrai gamin, qui tue des gens parce qu'il est fâché, pour un pari, qui va utiliser la puissance que Dieu lui donne, par l'esprit, mais de manière assez enfantine. De sorte qu'il va quand même faire des dégâts chez les Philistins, c'est son job, hein, d'être... de guider et de délivrer son peuple des Philistins, mais il ne fait qu'à moitié. Il ne fait pas quelque chose d'une stratégie concertée. On pourrait faire toute une étude de ce personnage. Et effectivement, dès le départ, un ange avait dit à sa mère, il va commencer à délivrer Israël. Mais il n'a pas dit, il va délivrer Israël. Et de fait, il n'aura délivré qu'à moitié son peuple. Alors que les juges précédents, eux, délivraient complètement le peuple des Philistins, par exemple. Autrement dit, le comportement des juges est de moins en moins bon. En fait, on estime parfois, je pense avec raison, que dans le livre des juges, le comportement à l'égard des femmes sert de baromètre spirituel. Si vous observez les femmes dans le livre des juges, c'est assez passionnant, il faut faire un tableau. C'est vrai qu'au début, vous avez quelqu'un comme Déborah, qui est une femme prophétesse, Dieu parle à travers elle au peuple, et qui devient juge. Parce qu'à l'époque, les hommes apparemment n'étaient pas très, ça manquait un petit peu de virilité ou je sais pas, de chef, de voilà. Du coup, c'est une femme qui devient la juge. Mais si vous allez plus loin dans le livre des juges, vous retrouvez des femmes coupées en morceaux et une fille qui se fait sacrifier comme un animal par son propre père. Alors là, je me prends les extrêmes. Si vous voyez une dégringolade au fur et à mesure du livre où les femmes sont de plus en plus maltraitées. C'est assez important. Bref. On a un cycle, mais en fait, ce cycle se transforme en spirale descendante, c'est de plus en plus catastrophique. Alors, c'est pas très joyeux hein, ce que je dis ce matin, mais il y a un message sous-jacent, hein, puisqu'on vous explique à la fin du livre, on le répète, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, on dit même chacun faisait ce qu'il voulait. Autrement dit, le système du peuple là, qui est un peu en autogestion, hein, chaque tribu qui fait ce qu'elle veut, etc., sans roi, sans gouvernement centralisé, ça tourne à l'anarchie. Et un des messages du livre, pas le seul heureusement, c'est que le peuple comme ça n'est pas capable de s'auto-gérer. Dire que Dieu c'est le roi, c'est bien en théorie, c'est super, mais en pratique, ils ont besoin de gouverneurs humains qui vont les diriger. Alors, un petit mot sur la notion de juge, parce que c'est vraiment trompeur qu'on dit un juge. C'est comme ça qu'on utilise le mot dans nos traductions, c'est devenu traditionnel en fait, hein. En réalité, on ferait mieux de traduire par chef ou gouverneur. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des juges en dehors d'Israël, le même mot utilisé par d'autres peuples. Alors du coup, si on dit, mais qu'est-ce que faisaient ces autres peuples avec ces fameux juges, parce que c'est le même mot hein, dans ces langues-là, et bien, en fait, c'était des sortes de gouverneurs locaux qui étaient investis d'une mission. Parfois, c'était souvent délégué par un roi. Le roi utilisait une sorte de chef local pour mener des guerres, pour gérer une région, etc. Et c'est exactement ça qu'on trouve dans notre livre biblique des juges, entre guillemets. Ce sont des gouverneurs, des chefs locaux, qui ont une importance régionale et pas pour tout le peuple, et qui vont mener à bien des missions militaires pour délivrer le peuple, et puis de gestion du peuple dans une région donnée. J'insiste là-dessus. Sachez bien que quand vous lisez le livre des juges, on n'est pas du tout avec des rois qui se succèdent. Vous avez des juges qui ont dû officier en même temps dans des régions différentes. Et un juge donné officie dans une région précise, parfois sur plusieurs tribus, mais jamais sur l'Israël entier. Donc faites attention à ça, c'est des clichés qu'on a dans la tête. Un juge, ce n'est pas un roi. Il ne gouverne pas sur l'ensemble du pays, mais que sur une région donnée, le sud, etc. Et en plus, comme c'est régional, parfois, il y a deux juges qui jugent en même temps, qui officient en même temps dans des régions différentes. Attention, parce que dans la Bible, on a l'impression que ça succède. Voilà, non, c'est plus compliqué que ça. Alors, je continue. On a parlé des Philistins. Un petit mot sur eux. On sait d'où ils viennent. Ils viennent de Crète, en fait, plus ou moins. La région là-bas. Ils font partie de ce qu'on appelle les peuples de la mer. Alors qu'est-ce que c'est que les peuples de la mer ? Ce sont des populations qui, juste à cette époque-là, où les Hébreux s'installent dans la région, vers 1200 avant Jésus-Christ, des peuples qui vont immigrer et s'installer dans cette région précisément. Les peuples de la mer, et les Égyptiens en parlent, parce que du coup ils ont un peu envahi la région. Et les Égyptiens ont réussi à les repousser. Il y a eu des batailles fameuses. Et vous avez là des... regardez, ça fait un peu punk, hein, je ne sais pas. Hein, c'était, voilà. Vous avez des fameux peuples de la mer, comme ça. Hein, des gens représentés sur des fresques, parce que il y a un pharaon qui est tout fier de les avoir repoussés. Alors, le pharaon est fier de les avoir repoussés, mais eux, ils sont repartis plutôt plus au nord, et notamment dans ce qui serait aujourd'hui la bande de Gaza. Hein, et ils se sont installés dans cette région-là, avec ces fameuses villes qui sont mentionnées dans les livres bibliques, 5 villes, ce qu'on appelle la Pentapole, 5 villes, qui appartiennent aux Philistins. C'est de là qu'ils viennent, en fait. Ils viennent donc de la Crète, etc., de ces îles, monde égéen, grec, si vous voulez, enfin, bon, voilà, la Méditerranée. Ils ont essayé de s'installer en Égypte, ils n'ont pas réussi, donc ils sont remontés plus au nord, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la bande de Gaza. Et en réalité, ils avaient l'influence aussi plus au nord. On a même trouvé des sortes de Philistins beaucoup plus au nord d'Israël. Ils ont été responsables, ces peuples de la mer, de la chute d'un empire, ce qui était l'empire des Hittites, en Turquie aujourd'hui. Donc c'était une grande période de bouleversement dans toute la région. Alors, les Phéniciens, c'est encore autre chose, ils étaient là depuis bien plus longtemps. Donc ça, c'est au Liban actuel, hein, les villes de Tyr, Sidon, Byblos, mais eux étaient là depuis vraiment longtemps, on a des traces déjà bien bien avant. Non, les Philistins, donc, c'est un parmi d'autres peuples de la mer qui sont installés dans la région. Je continue pour vous montrer, ça c'est assez exceptionnel, une inscription qui date du 11e siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine période des juges. Et ça ne va pas vous donner grand-chose. Hein. Vous avez l'image en bas, vous avez un fac-similé en haut, un dessin à la main. Je ne pense pas que vous allez reconnaître beaucoup de signes. Alors, ce qui peut vous rassurer, c'est que les quatre premières lignes là, en haut, personne ne sait ce que ça veut dire. Et la quatrième ligne, on sait ce que ça veut dire, c'est un alphabet. Ça va de A jusqu'à, alors ils n'ont pas Z, ils ont T dans cette langue-là. Vous avez tout l'alphabet ici. En fait, on pense que c'est un écolier, c'est une possibilité, un écolier ou un apprenti scribe qui s'entraînait. Et du coup, en fait, ici, il a dû s'entraîner à écrire plein de lettres et là, il a récité son alphabet. Mais c'est presque émouvant parce que c'est un petit texte comme ça, écrit par un philistin qui apprenait à écrire. Quoi. Voilà. Je continue. Sur la période des juges, on sait peu de choses en fait. Mais il y a une chose exceptionnelle que je peux vous montrer. C'est une maison, sans doute israélite. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais à quoi ressemble une maison. Vous aurez des petits détails, vous direz, tiens, mais il y a un étage. Parce que quand le prophète Élie vient visiter une dame, elle installe sa chambre à l'étage. Vous allez vous douter peut-être parfois qu'il y a une sorte de terrasse. Enfin, vous avez très très peu de détails. C'est l'archéologie qui peut vous montrer à quoi ressemblait une maison israélite. Alors je vais vous montrer une maison israélite et pour cela, je vais aller sur le site qui s'appelle Tal al-Umairi, c'est en Jordanie aujourd'hui. Et la maison se trouve à peu près ici, il y a un escalier, vous pouvez visiter. Pour vous situer, ça se trouve tout près de Amman, hein, en Jordanie aujourd'hui. Ça, c'est la mer morte. Voilà. Mais c'était sur le territoire d'une tribu d'Israël à l'époque. Puisque, rappelez-vous, il y avait des tribus qui étaient installées dans cette région-là. Alors, d'abord, une petite visite du site. Je vais vous montrer, avant de montrer la maison, un bâtiment très surprenant. Alors là, il y a des gens qui sont là pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'échelle. Mais vous pouvez rentrer et vous avez des pièces, et surtout une pièce ici qui est très surprenante, avec ça. Je vais avancer. Voilà un dessin de la même... Je vous remontre. Hein. Voilà, vous voyez, vous rentrez par là, hop, et vous allez vers cette sorte de pierre ronde un peu bizarre. En gros, vous rentrez, hop, et vous allez vers la pierre ronde un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un hôtel, sans doute, ouais. C'est en fait, alors voilà, hein, voilà la fameuse pierre et d'autres petites pierres. C'est ce qu'on appelle une sorte de pierre levée. C'est, semble-t-il, là où on représentait la présence des dieux. Et devant, on pouvait faire des petits sacrifices sur une table. Et si ma mémoire est bonne, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais si ma mémoire est bonne, dans la pièce qui est derrière, qui, comme vous voyez, ne communique avec rien du tout, oui, ça je suis assez sûr, la mémoire est quand même pas trop mauvaise, on a retrouvé plein de restes d'animaux qui étaient sans doute sacrifiés juste devant cette fameuse statue. Ou ces statues, parce qu'en fait, il y a plusieurs pierres. Donc ici, vous avez quelqu'un qui pouvait faire des petits sacrifices ou faire fumer de l'encens, etc. Et derrière, on pouvait jeter les ossements des animaux qui avaient été sacrifiés. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée de à quoi pouvait ressembler la religion de l'époque. Alors là, c'est pas très cachère, hein, si vous lisez la loi de Moïse, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Mais en même temps, si vous lisez le livre des Juges, vous voyez que tout le monde n'était pas parfaitement rigoureux d'un point de vue religieux. Voilà, la fameuse pierre et d'autres petites pierres autour. Ce qui suggère aussi qu'il y avait plusieurs dieux, en fait. Hein. Je continue, et je vous montre la fameuse maison. Donc, ce bâtiment-là, hein, juste avant, il y a un débat. Certains archéologues pensent qu'il s'agit d'un temple. Bah, tiens, il y a une salle religieuse, ça doit être un temple. D'autres disent non, c'est une maison un peu de quelqu'un de riche, mais qui, dans sa maison, avait une chapelle personnelle. Bon, il y a un petit débat. En tout cas, on va aller voir une maison quelconque, maintenant. Alors, ça donne moyennement envie de vivre là, hein, si vous visitez comme ça, parce qu'on ne retrouve que des ruines. Hein, et même les morceaux de bois ici, les poutres, ont été rajoutés à l'époque moderne. Enfin, ça vous permet quand même de voir à quoi ça ressemblait. Vous aviez une sorte d'entrée par là. Là, une sorte de petit parc, c'est pas très clair. Et puis là, vous avez une pièce centrale, une allée centrale, une autre allée parallèle et une troisième allée parallèle. Trois allées parallèles. Séparés par des piliers qui supportent un toit, en tout cas peut-être un étage. Et derrière, il y a une quatrième pièce comme ça qui est couverte. trois pièces parallèles et une quatrième pièce perpendiculaire. En fait, c'est le schéma typique d'une maison israélite. Elles suivent très souvent ce modèle-là, sur tout le territoire de l'ancien Israël. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler, une reconstitution. Donc, je vous rappelle, vous rentrez par là, et là vous avez un petit parc, effectivement vous pouvez mettre des animaux. Une allée centrale, alors là ils ont enlevé les piliers pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Une autre allée sur le côté, où il y avait des animaux sans doute qu'on gardait. Et puis ça a chauffé la maison, hein, mine de rien. Une autre allée où on a retrouvé les restes d'une kitchenette. Donc, le confort est très relatif, hein. Vous voyez madame qui fait chauffer sur un feu. Une quatrième pièce perpendiculaire qui devait servir de cellier, avec des jarres d'huile, de vin, des céréales, je ne sais pas quoi. Comme il n'y a pas d'escalier, on en déduit qu'il montait avec des échelles. Et à l'étage, vous avez une chambre. Peut-être deux, parce que là, ils ont coupé pour qu'on puisse voir. À l'étage, vous aviez là où les chambres. Et puis, tout en haut, vous pouvez monter encore pour prendre le soleil. Ou dormir la nuit s'il fait vraiment très très chaud. Ce que je ne sais pas, c'est où se trouve la salle de bain et les toilettes. Ben oui, il n'y en avait pas. Voilà. Donc voilà à quoi devait ressembler une maison israélite. Ça, elle date de l'époque des juges, mais toutes les maisons israélites suivent ce modèle quasiment tout le temps. C'est un modèle architectural standard. Et on appelle ça des maisons à quatre pièces. Alors, quatre pièces pour le rez-de-chaussée, une, deux, trois et une quatrième perpendiculaire. Un autre site qu'on a pu fouiller, c'est le site de Silo. Silo, Shilo en hébreu, Silo. Parce que même s'il n'y a pas de gouvernement central, il y avait quelque chose qui était centralisé. C'était le lieu de culte où se trouvait le tabernacle. Rappelez-vous, dans le désert, le peuple avait un temple, mais portatif, un temple mobile, une tente, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Une fois que vous installez dans le pays promis, vous n'avez plus besoin de vous balader avec partout. Donc on a trouvé un site sur lequel on l'a installé, et ça servait de sanctuaire central pour tout le pays, pour toutes les tribus. Toutes les tribus. On a fouillé ce site, on n'a pas retrouvé le tabernacle, on n'a pas trop d'espoir parce que ça ne se conserve pas bien le textile, hein, la tente. Mais voilà, il y en a qui, quand vous visitez le site, on vous dit, tiens, peut-être que c'était là le lieu du tabernacle. Si ce n'est pas là, c'est 50 mètres plus loin, hein, c'est dans le coin. Voilà. Mais vous vous retrouvez en plein Israël, vous voyez, c'est des collines, ça fait vraiment Provence pour ceux qui connaissent. Voilà, on n'a pas retrouvé le tabernacle, mais ça c'est assez normal. En fait, il était de toute façon déplacé par la suite à Jérusalem, hein, voilà. Alors maintenant, je vous ai montré quelques idées, quelques images sur l'époque des juges, quelques enseignements que je vous suggère de tirer de ce livre. Mais on pourrait en discuter, réfléchir, débattre, etc. Le premier point, c'est que ce livre nous montre quand même, je crois, que le peuple de Dieu a besoin de dirigeants. C'était vrai à l'époque des juges, mais je pense que c'est une vérité permanente. Alors, d'abord, on nous montre que le peuple a besoin de juges, donc de chefs, pour le délivrer et pour le guider. Et puis à la fin du livre, on insiste lourdement sur le fait que ça manquait de rois à l'époque. Donc dans ces derniers chapitres, le livre répète qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. C'est une sorte de leitmotiv ou de refrain. On vous le dit quatre fois. Et on conclut le livre en disant qu'il y a une sorte d'anarchie. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Et on voyait le résultat. Donc tout l'ouvrage sert à démontrer l'échec d'une autogestion du peuple. Les derniers chapitres évoquent même une situation de guerre entre les tribus. C'est presque la guerre civile à la fin du livre. C'est pour ça que c'est un livre qui quand même est terrible au total. Vous voyez des femmes qui meurent, coupées en morceaux, des choses comme ça. Mais c'est pas un plaisir sadique, hein, de la part de l'auteur. Il y a un message sous-jacent qui est de vous dire « Mais regardez comme c'est terrible quand le peuple est livré à lui-même. » Ils avaient besoin quand même d'un roi à un moment donné. Alors même en considérant Dieu comme le véritable roi, le peuple souffre de l'absence d'une direction humaine. Et je pense que c'est une leçon qui vaut aussi aujourd'hui pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, Dieu institue, des gens qui vont être à la direction du peuple. Alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez, des pasteurs, des évêques, des prêtres, ce que vous voulez. Mais dans toutes les églises, ou presque, il y a des gens qui dirigent. Parfois ce sont des anciens, parfois... Donc c'est un collège d'anciens qui dirige l'Église. Parfois c'est un pasteur, parfois c'est les deux. Souvent c'est les deux. c'est bien comme ça, je pense. C'est comme ça chez nous. On dit ancien, on dit pas ancien, hein. Conseiller, si vous voulez. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que sinon, ça serait un peu le chaos, hein, pour être franc. Et autant personne n'est parfait, autant il semble bien que ce soit nécessaire. Et il est frappant que dans le Nouveau Testament, on maintienne cette nécessité de gens qui vont servir l'Église, hein, pas comme des petits rois ou des petits chefs, mais comme des gens qui vont se décarcasser pour aider l'Église à avancer. Donc ça, c'est une leçon à la fois simple et en même temps, il faut réaliser que ce n'est pas toujours populaire, hein, cette idée de dirigeant. Parfois, on aime bien avoir une élection présidentielle. Parfois, on arrive à croire en quelqu'un et voter pour lui. Après, on est plus ou moins déçu, ça dépend des fois. Hein. Mais il y a des gens qui arrivent à jouer là-dessus, hein, sur le leadership, etc. Et d'autres personnes qui ont besoin de ça. Et puis inversement, il y a des personnes qui aiment bien contester, qui ne supportent pas l'autorité. Et dans l'Église, on est censé se soumettre à nos autorités. Je peux dire ça facilement parce que je n'en fais pas partie. Hein, donc, mais c'est un message biblique. Deuxième point, c'est que le comportement des dirigeants a un fort impact sur le peuple et sur l'Église aujourd'hui. Je vous ai dit rapidement que dans le livre des juges, quelqu'un comme Samson, par exemple, a un comportement qui est répréhensible, globalement. Hein. Il y a des critiques implicites dans le texte. On pourrait faire des séries de prédications sur le sujet. En fait, le regard critique qui est posé par le narrateur, hein, qui raconte l'histoire des juges, on ne sait pas qui, sur les défaillances des chefs, et il y en a toute une série, c'est fait aussi pour nous prémunir contre les dérives possibles du leadership. Désolé, c'est un mot anglais, mais il est passé dans le dictionnaire, sauf erreur. La santé spirituelle des chefs a un impact direct sur celle du peuple. Et ça se verra aussi à l'époque des rois. Si un chef entraîne son peuple en disant « mais maintenant on va se laisser guider par tel dieu, on va remettre notre sort entre les mains de telle ou telle divinité », si lui-même il montre un mauvais exemple ou un bon exemple, ça va changer beaucoup de choses pour le reste du peuple. Ça sera tout le message aussi. Une bonne partie du message du livre des rois. Parce que les rois ne feront pas mieux que les juges de ce point de vue-là. Pas beaucoup mieux, pour la plupart d'entre eux. Donc ça veut dire que les dirigeants et leur santé spirituelle ont une grande importance. Ce qui est encore vrai aujourd'hui. Alors inversement, je dis, le peuple risque de se montrer trop dépendant de la présence d'un chef. S'il a un leadership un peu strong, pour continuer dans l'anglais, et on risque de retomber dans de vieilles erreurs quand il disparaît. Alors c'est classique hein, pour les pasteurs, hein, comme j'en sais dans une fac où on forme les pasteurs, on en parle, hein, c'est classique d'avoir une église qui pendant 20-30 ans a un pasteur super, qui fait tout, enfin, qui est très présent, qui est un vrai berger comme on dit et tout. Et le jour où le pasteur part, parfois ça se passe mal. Moi j'ai connu ça dans une église où on avait un pasteur qui était remarquable, un vrai papy, ou je ne sais pas comment il faut dire, enfin, quelqu'un qui avait vraiment du cœur. Et le jour où il est parti, ça n'a pas été facile la transition. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ensuite allaient voir dans une autre église. Alors, tout ça c'est des réalités classiques au sujet des chefs, mais le livre des juges, en parlant en long et en large, sur des chapitres entiers de ces personnages, nous donne pas seulement une histoire à regarder comme si c'était des anecdotes du passé, mais nous renvoie aussi à des comportements humains typiques chez les chefs comme chez le peuple. Alors, comme je dis, il suffit de remplacer le mot chef ou juge hein, partout par pasteur, prêtre, ancien, tout ce que vous voulez, dans les phrases que j'ai dit, hein, l'histoire sur les chefs, dans les phrases précédentes, pour voir que c'est un livre qui nous appelle à réfléchir sur la notion de leadership, à bien le vivre dans l'Église. Et moi, je dis ça en toute liberté, parce que comme je ne suis ni pasteur ni conseiller, je peux me permettre de le dire. Et c'est d'autant plus important que souvent, on n'en parle que quand il y a des problèmes. Alors, par exemple, dans notre Église, on n'a pas de problème, je pense. Enfin, de ce côté-là, on a de la chance. Hein. Mais si on ne pose jamais des principes sur le sujet, en disant c'est important de respecter le pasteur, les conseillers, ils ont une autorité à laquelle il faut se soumettre quand même. Si on ne le dit pas en période de calme, de paix, le jour où il y aura des conflits, ça pourra jouer un grand rôle. Donc il faut s'en rappeler de temps en temps. Et en lisant le livre des juges, on voit l'importance des chefs, leur état spirituel et du comportement du peuple à leur égard. Troisième point, toujours ces fameux juges comme des modèles imparfaits. Ça, je trouve ça assez intéressant de se dire que ce sont des modèles, dans une certaine mesure, et en même temps, ce sont des modèles très très imparfaits. Donc le livre des juges est rempli de personnages hauts en couleur. Ce sont des vrais phénomènes, hein, ces juges. Et par-delà leurs limites, ils restent des modèles de foi. Parce que j'ai critiqué Samson, mais il est dans la liste des héros de la foi que vous trouvez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Vous avez des gens comme Jephté, qui va sacrifier sa propre fille, hein, en holocauste, il l'a égorgé, quoi, hein, il l'a brûlé. Ouais, c'est sinistre, hein. Oui, mais il est dans la liste des modèles de foi. Bon, mais bienvenue dans la Bible, hein. C'est comme ça, vous avez des gens que Dieu a utilisés et qui ont été des modèles dans leur foi. Parfois, c'était des battants pour le Seigneur, et en même temps, parfois, ils étaient insupportables, quoi. Mais c'est ça, les êtres humains. Et ce qui est bien dans la Bible, c'est que vous n'avez pas ce qu'on trouve dans pas mal de livres chrétiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'hagiographie. C'est quand vous écrivez l'histoire de quelqu'un comme si c'était un saint. Il y a des histoires de missionnaires comme ça, par exemple, où on... Bon, j'ai un grand-père qui était missionnaire, hein, j'ai rien contre les missionnaires, hein, mais on écrit parfois comme si c'était des saints qui étaient parfaits, ils n'avaient pas de défauts. Vous fermez le bouquin, vous dites, waouh, c'est épatant, c'était un type génial, un saint, voilà, il était parfait déjà sur Terre. En réalité, quand vous faites un peu l'histoire sérieuse, vous voyez que c'était quelqu'un qui avait un caractère imbuvable, etc., mais qui a fait des choses géniales que personne n'aurait fait à sa place. Ouais, mais dans la Bible, c'est exactement ça. À part Jésus, il n'y a pas beaucoup de personnages bibliques qui ressortent indemnes. Tous ont un petit problème. Abraham, Moïse, Néhémie, ils ont tous un problème quelque part. Pour les juges, c'est parfaitement clair. C'est ni tout blanc ni tout noir, c'est gris, si vous voulez. C'est complexe. Donc ce sont des fonceurs parfois qui comptent sur Dieu, et ça, de ce point de vue-là, ils restent des modèles. Même Samson, même Jephté. Et de notre côté, ils ont des défaillances. Donc si on médite sur leur parcours, si on essaie de voir ce qu'ils ont fait de bien, de pas bien, quelles étaient leurs tendances dans leur vie spirituelle, parce que parfois ça se voit dans le texte, ça peut nous aider à mettre le doigt sur des déficiences dans la spiritualité qui peuvent être instructives pour nous aussi, parce qu'on leur ressemble quand même étrangement. Et ça peut aussi, de notre côté, nous rassurer en relativisant nos propres limites. Parce que si vous dites « Dieu a utilisé Samson avec ses gros défauts », bon, ça décomplexe un petit peu en se disant « Bon, on n'est pas parfait, mais Dieu peut quand même nous utiliser. » Sinon, on pourrait être paralysé en se disant « Mais je suis nul, c'est pas vrai. » Et puis, dans tous les cas, tous ces leaders imparfaits, ils pointent vers un chef qui, lui, sera parfait, hein, ça sera Jésus. Ça, on le sait bien en tant que chrétien. Mon dernier point, je conclue là-dessus. Mon dernier point, c'est que dans le livre des juges, on peut voir une sorte de défi lancé à chaque génération. Regardez, dans le processus de cyclique, hein, qui est à l'œuvre dans le livre des juges, on met en évidence, pour cette période, hein, le fait que la fidélité à Dieu, c'est l'affaire de chaque génération. Puisque à chaque fois, vous avez une génération nouvelle qui se détourne de Dieu, qui fait ses propres bêtises, qui est punie, qui se tourne à nouveau vers Dieu, qui est délivrée par un chef, qui vit un petit peu une période de paix, et puis une nouvelle génération née et rebelote. Et bien, mine de rien, je pense qu'il y a un enseignement là-dessus sur le fait qu'il y a des choses qu'il faut refaire à chaque génération en quelque sorte. Et évidemment, je pense à la situation de l'Église, notre Église par exemple. Hein, on a des jeunes, super d'ailleurs, hein, qui sont très actifs. Mais chaque génération a besoin de refaire sa propre histoire. Et il y a aussi des Églises où vous avez beaucoup une histoire prestigieuse et on vit sur le passé. Et en fait, on se sclérose. Et du coup, les nouvelles générations ne se sentent pas à leur place, ne peuvent pas exprimer leur façon de fonctionner, etc. Et inversement, il y a des Églises qui font du jeunisme où, au contraire, les jeunes... impose tout aux vieilles générations qui ne supportent pas. Donc c'est toujours une question d'équilibre à trouver. Et c'est pas très facile, mais il reste cette vérité que chaque génération doit refaire sa propre histoire, retrouver ses marques, refaire son chemin avec le Seigneur. Et même s'il y a plusieurs générations dans une église, il y a la génération future dont il faut prendre soin, parce qu'ils auront du travail à faire. Je ne sais pas, j'imagine dans 20-30 ans... je sais pas, Jean-Marc ou les gens, nos jeunes très actifs, se diront « Ah, quand même, la génération précédente, ils ont vraiment bossé dur pour construire une église. » C'était une des grandes tâches qu'aura fait une génération de chrétiens, par exemple. et eux auront d'autres défis qui seront complètement différents. Bon, c'est comme ça. Et puis, il me semble que ça nous montre aussi, à l'échelle de l'individu, hein, ça pointe vers le fait, sur lequel insiste la Bible par ailleurs, qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Donc à l'échelle de la communauté, on a une génération de croyants individuels qui doit pas seulement bénéficier des bonnes habitudes de son Église, des bonnes bases qui sont posées, il faut aussi que cette génération se saisisse elle-même de la foi pour avancer, et avancer en jouant en collectif, comme je dis, en communauté. Donc vous voyez comme c'est compliqué. Hein. D'un côté, à chaque génération, je ne dis pas qu'il faut réinventer la lune, mais il faut que nos jeunes, qui sont dans des groupes de jeunes, etc., fassent leur chemin avec le Seigneur personnellement, ne peuvent pas se reposer sur le fait que leurs parents sont croyants. Parce qu'on insiste beaucoup là-dessus en tant que chrétien, protestant, évangélique, etc. D'un autre côté, il faut qu'ils profitent de bonnes choses qui sont posées dans l'Église, mais en réinventant et en adaptant la vie chrétienne face aux défis de leur génération, qui ne sont pas les mêmes que la génération précédente. Et dans le livre des Juges, on voit ce cycle qui se reproduit, et à chaque fois, il faut recommencer tout le boulot. Et même si avec le Seigneur, dans le Nouveau Testament, on a quand même un peu plus de révélation de la part de Dieu, je pense, et de bénéfices à retirer dans notre vie spirituelle, donc grâce à Jésus, il y a quand même ce phénomène qui est vrai à l'échelle d'une église, d'une communauté, je pense. Donc ça, c'est des pistes de réflexion. Hein, c'est pas le dernier mot sur le sujet, mais le livre des Juges met le doigt sur certains problèmes comme ça, dont il faut se préoccuper. Voilà, merci pour votre attention. Et puis maintenant, on a un petit temps pour les questions, un peu plus de temps que la dernière fois.
Au début de l'exposé, tu as parlé du fait qu'il n'y a pas la notion d'ethnie vraiment présente au sens où Dieu n'aime que le peuple d'Israël. On pourrait faire un parallèle avec l'islam, justement, qui peut-être est plus porteur de ce genre de message. Est-ce que tu peux juste donner un mot là-dessus pour peut-être nous convaincre qu'effectivement Dieu n'avait pas une préférence uniquement pour Israël particulièrement, et que ça se détache un peu justement du message de l'islam qui est plutôt porté vers un peuple qui doit conquérir le monde et puis imposer l'universalité.
Alors, je vais répondre partiellement parce que je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais alors dans l'islam, en même temps, je me dis, juste entre parenthèses, qu'ils ont, entre guillemets, plusieurs... Le mot ethnie est piégé aujourd'hui. Hein. Mais finalement, on dit des Arabes, mais ça ne veut plus dire grand-chose, qui sont musulmans, des Indonésiens aussi, des Iraniens qui sont encore un autre peuple. Donc, ils ont quelque chose comme ça. Mais ils ont, je pense que c'est ce que tu veux dire, cette idée d'un peuple qui vraiment est conforme à Dieu et qui doit conquérir le reste. Alors, avec plusieurs façons de le vivre, puisqu'il y en a qui ne résonnent plus comme ça aujourd'hui. Ce que je peux dire, juste modestement, c'est que dans la Genèse, on a déjà cette idée avec Abraham et ses enfants, de ce que Dieu va utiliser une lignée. Il va prendre un fils d'Abraham qui sera Isaac, qui sera un chaînon menant vers le peuple de Dieu. Et en même temps, on a Ismaël, qui n'est pas le fils de la promesse, comme on dit, c'est-à-dire que Dieu ne va pas en tirer son peuple, mais qui est béni, lui et sa descendance, explicitement par Dieu, d'après le livre de la Genèse. Donc ça c'est intéressant, ça veut bien dire que Dieu ne restreint pas son amour, sa bénédiction à un seul peuple. Alors après, je ne suis pas en train de dire que les musulmans ou les arabes ou quoi sont descendants d'Ismaël, c'est plus compliqué que ça je pense. Hein. D'après ce qu'on peut pressentir, il semble, hein, Ismaël... il en descendra, si vous voulez, des tribus nord-arabes dans la région, mais peut-être pas tout ce qu'on appellerait arabe aujourd'hui. Quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Mais là, on a vraiment, mais c'est un signe parmi d'autres où on a Dieu qui bénit des branches alternatives dans la famille même d'Abraham, qui montre vraiment qu'il aime au-delà de ça. Et puis, alors on avait parlé la dernière fois, dès le départ, Genèse 12, hein, quand Dieu dit à Abraham qu'il va le bénir, et qui va donner une descendance, qui aura un pays, il dit aussitôt que toutes les familles de la terre se béniront en Abraham et sa descendance. Donc on voit bien que dès le départ, la stratégie de Dieu, c'est d'avoir une histoire particulière avec un peuple, mais avec une vue universelle pour bénir tous ceux qui voudront bien sur terre. Bon, ça répond un petit peu, mais il ressemble encore à dire. Hein.
Alors, je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais de Jephté, la fille de Jephté. Moi, j'avais compris que sur la mort de sa... Enfin, c'est peut-être pas la mort de sa fille, mais elle est consacrée elle est donnée à l'Éternel. Elle n'est pas forcément brûlée, coupée en morceaux. Je ne sais pas ce que tu as raconté. Gorgée, oui. J'ai parlé d'un sacrifice, mais on ne connaît pas la nature de ce sacrifice.
Je souris parce que je donne ce texte à mes étudiants tous les ans, tous les deux ans. Et il y en a qui, j'en ai vu arriver. Je vais essayer de répondre, mais ils se prennent la tête pour savoir. Parce que dans les interprètes, les commentateurs, vous avez les deux options. Ceux qui disent « Jephté a vraiment tué sa fille, il l'a sacrifié en holocauste ». Et d'autres qui disent « Non, il l'a juste consacré, un peu comme une fille qui entrerait au couvent, j'en sais rien ». Alors en fait, à mon avis, vraiment en regardant les mots du texte, même si c'est terrible, ça laisse pas de place au doute. Au début du texte, Jephté dit, quiconque sortira de ma maison, la première personne qui sortira de ma maison, je te l'offrirai en holocauste. Si, il parle à Dieu, hein, si tu me donnes la bataille, de vaincre dans la bataille qui va s'en suivre. Et à la fin du texte, le texte dit de manière assez laconique que Dieu a exécuté son vœu. Ouais, Jephté, oui, merci, je commence à faire de lapsus, c'est la fin. Jephté a accompli son vœu sur sa fille. Et donc, en fait, quand on dit il accomplit son vœu, ça renvoie directement au vœu qui était de offrir en holocauste quelqu'un. Donc je crois vraiment qu'il n'y a pas qu'il y ait de place au doute, même si le texte est, il ne donne pas dans le voyeurisme, il est vraiment sobre sur la fin. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de... Alors il y a d'autres arguments, il y a tout un débat, mais en fait on n'a pas de notion dans l'ancien Israël de consécration d'une femme comme ça. Il y a des femmes qui œuvraient au temple, peut-être qu'elles rendaient des petits services, en couture, j'en sais rien, hein. Mais on n'a pas de notion. Certains imaginaient que c'est comme si c'était... puisqu'elle pleure sur sa virginité. En fait, qu'elle va rester vierge quand elle va mourir. Enfin, quand même. Ouais. Mais il n'y a pas de ça dans l'ancien Israël, à notre connaissance, en fait. Il n'y a pas de notion de bonne sœur, entre guillemets, ou de sœur au sens catholique. Donc, il n'y a pas... Et en plus, le plus limpide, le plus sûr dans le texte, c'est qu'elle meurt parce qu'elle pleure parce qu'elle va mourir sans enfant. Et Jephté lui-même est déprimé parce qu'il n'aura pas d'enfant non plus. Tant pis pour lui, quoi. Non, mais c'est-à-dire que mourir, c'est une chose, mais ce qui lui pèse le plus, c'est de mourir vierge, sans enfant. Pas sans relation sexuelle, ça, bon, ça peut-être elle est triste aussi, mais surtout parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était vraiment terrible. Et pour un homme, et pour une femme. Bref, elle se dit, mais ma vie, à quoi est-ce qu'elle a servi? Bon, on ne raisonne plus comme ça aujourd'hui, heureusement, hein. Mais donc les mots du texte, il accomplit son vœu sur elle, ça te renvoie juste à ce qu'il avait fait comme vœu. Donc à mon avis, il n'y a pas le choix. C'est terrible, hein, mais il n'y a pas trop le... Il y a encore d'autres arguments, mais franchement... Ouais. C'est entre guillemets parce que certains commentateurs essayent de récupérer Jephté, parce que c'est un héros de la foi, comme d'autres essayent de récupérer Abraham quand il a fait passer sa femme pour sa sœur. Et elle se retrouve dans le lit du pharaon, en fait. Ouais, et en fait, tous les personnages bibliques comme ça, moi je vois ça avec mes étudiants qui ont fait l'exégèse, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de les récupérer, de les sauver un peu leur réputation. Alors qu'en fait, le texte biblique, si on le regarde de près, non, il montre vraiment leur faille. Donc voilà, là je suis assez convaincu, mais on pourra en discuter encore. Merci.
Voilà, merci Mathieu. Merci pour vos interventions, vos questions qui ont suscité autant de sujets de réflexion pour l'avenir. Mathieu, tu vas te ressolliciter, à mon avis, dans les quelques temps qui viennent. Voilà, je vous souhaite un bon retour et un bon week-end et un bon culte pour demain.